Lorsque nous avons commencé le carême avec le premier dimanche de carême, nous avions vu Jésus qui rentre dans le combat spirituel en allant au désert, conduit par l'Esprit. Ce combat, au fond, contre les idolâtries, sortir de l'alliance avec Dieu pour aller vers d'autres amours désordonnés. Et dans ce cinquième dimanche de carême, cette cinquième semaine qui précède la semaine sainte, eh bien, nous avons aussi l'exemple d'une forme d'idolâtrie et de personne qui a succombé à l'adultère, qui est sortie de l'alliance pour aller vers d'autres amours. Mais au fond, à travers cette femme qui est amenée là par les pharisiens, c'est toute l'humanité qui est mise devant le Seigneur, à ses pieds. Il est assez singulier, par exemple, que cette femme, surprise en flagrant délit, eh bien, il n'y ait pas aussi la présence de l'homme, comme l'indique aussi la loi de Moïse. L'homme et la femme, surpris en adultère, doivent être tous les deux lapidés. Mais il ne s'agit pas d'une enquête policière, vous l'avez bien compris. Si Saint Jean, et c'est le seul à relater cet épisode, nous présente cette femme aux pieds du Seigneur, c'est toute l'humanité qui est appelée à retrouver les épousailles avec le Christ, toute l'humanité qui est appelée à rentrer dans l'alliance. Et à travers cette femme, c'est au fond chacun de nous aussi qui sommes invités à remettre le cap sur le Seigneur pour ne pas nous laisser entraîner vers d'autres dieux, vers d'autres amours qui nous laissent vides. Il est un mouvement, quand on observe un peu attentivement le texte, si vous avez l'occasion de le faire, on voit il y a deux grands mouvements dans ce texte. Premièrement, Jésus qui se baisse et qui se relève deux fois, et une fois pour les pharisiens, une fois pour la femme adultère. C'est assez intéressant parce que se baisser et se relever, vous savez que le mot « se relever » a donné le mot « ressusciter ». Se baisser et se relever, c'est le mouvement même, eh bien, de la Semaine Sainte. Jésus qui descend dans les affres de la Passion pour ressusciter, se relever d'entre les morts. Et il le fait une fois pour les pharisiens. Pourquoi pour les pharisiens? Parce qu'eux aussi ont commis d'une certaine manière l'adultère. Eux aussi sont sortis de l'esprit de la loi de Moïse pour chosifier Dieu. Eux aussi ont commis cet acte qui les a entraînés vers d'autres dieux, vers une forme d'idolâtrie. Mais aussi, il descend et il remonte pour la femme qui est mise là. Et on voit bien que, quand on regarde le texte, une forme de changement de centre dans la scène, alors qu'au départ, c'était la femme qu'on imagine là au milieu. Progressivement, c'est le Christ lui-même qui deviendra le centre d'accusation. Et cela nous rappelle la grande parole de l'apôtre saint Paul, « Il s'est fait péché pour nous ». C'est le Christ lui-même qui est accusé. Il prend la place, d'une certaine manière, de la femme et de tous ceux qui sont sortis de l'Alliance pour porter sur ses épaules le fardeau de l'humanité. On voit bien que dans cette grande fresque qui nous est montrée là, eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui nous invite à nous laisser toucher par lui. Parce que qu'est-ce qui va sauver la femme sinon d'être seule au pied du Seigneur? Où sont-ils tes accusateurs? Eh bien, personne, Seigneur, ne m'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus. C'est cette rencontre seule à seule de la femme avec le Christ qui va la sauver. C'est, on peut dire, une des premières bénéficiaires, eh bien, du salut que le Seigneur donne. On saura bien que l'autre bénéficiaire, eh bien, ce sera Barabbas, le fils du Père en hébreu. Eh bien, c'est très beau de voir que le fils du Père, eh bien, vient sauver un brigand qui porte le même nom que lui. Au fond, à travers cette scène, c'est déjà l'annonce de la Passion qui est là. Et quelques versets plus loin, le verset 8e, le chapitre 8e de Saint Jean est capital parce que il va être comme une forme de charnière. Après ce passage de la femme adultère, il y aura ensuite le passage où Jésus dit qu'il est lumière du monde, et ensuite il y aura le passage où il affirme son lien avec le Père, et là, il y aura une levée de boucliers de la part des pharisiens, à tel point que ces pierres amassées pour la femme adultère, on les retrouve à la fin du chapitre 8e, parce qu'elles devaient être lancées contre le Christ lui-même. Il voulait aussi le lapider parce qu'il affirmait son lien avec le Père. On voit donc que le Seigneur lui-même prend notre place. Et c'est très réconfortant. Il n'est pas là pour juger dans le sens, pour désespérer, parce que qui d'entre nous n'est pas allé vers de faux dieux? Qui d'entre nous n'est pas allé dans des abîmes, dans des ornières? Et on le sait bien, de confession en confession, c'est bien toujours les mêmes choses que l'on répète devant le Seigneur, présent dans le prêtre, en face de nous. Eh bien, oui, le Seigneur nous relève, nous aussi. Le Seigneur retrace en nous les vrais traits du visage de l'homme qui a été formé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est la seule fois où le Christ écrit quelque chose. Il n'y a pas d'autre passage. Le Christ n'a rien écrit de sa vie, ni sur un papier, ni sur un autre support, si ce n'est sur le sable. Il a tracé des traits, et les pères de l'Église ont dit, mais qu'a-t-il marqué sur le sol, puisque c'est la seule fois où il a écrit? Eh bien, beaucoup ont fait des suppositions, d'une certaine manière, et certains ont dit, n'est-ce pas pour retracer les traits de l'Adam premier, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu? Oui, frères et sœurs, nous avons là un passage magnifique qui nous ramène au fond à l'origine, cette alliance que le Seigneur veut faire avec chacun, cette alliance qui est plus forte que le péché et que la mort. Et le Seigneur nous en donne un exemple. Et dans la première lecture, on voit bien cette espérance. Hein. Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau, oui. Le Seigneur, par sa passion et sa résurrection, fait un monde nouveau, nous ouvre des portes qui jusqu'à présent étaient fermées, nous ouvre une espérance à laquelle nous ne pouvions pas atteindre. Alors, laissons-nous toucher par ce passage de la femme adultère, laissons-nous toucher, mais aussi assimilons-nous à cette femme à qui il redonne sa dignité. C'est très beau de voir que, au fond, comment l'appelle-t-elle à la fin? Elle l'appelle « femme, où sont-ils donc tes accusateurs ?» Femme, c'est ainsi qu'il s'adressera à la très sainte Vierge du haut de la croix. « Femme, voici ton fils. » Il l'a rétablie, si on peut dire, dans sa dignité de femme, dans sa dignité d'épouse, c'est-à-dire rétablie dans sa capacité d'aimer d'un amour gratuit et désintéressé. Au fond, à travers ce passage, c'est l'ensemble de l'humanité qui est concernée, et en particulier l'Église. L'Église est épouse, l'Église est appelée à être l'épouse de l'unique époux et à manifester à l'ensemble du genre humain eh bien, qu'il est fait pour être avec Dieu et vivre avec Dieu comme celui qui répond à son besoin d'amour. Laissons-nous, frères et sœurs, interpeller par ces très beaux passages de l'Écriture. À l'occasion, eh bien, reprenons-les chez nous, en secret, lorsque l'on ferme la porte et qu'on est là avec le Seigneur en secret dans la prière. Et on peut, en méditant sur ces textes, il m'a semblé qu'on pouvait mettre sur les lèvres de la femme adultère, une fois pardonnée, eh bien, on pouvait mettre ces paroles de l'apôtre saint Paul, une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière, lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Amen.